Panorama Économie.
C'est avec le même plaisir que l'équipe de Panorama Économique vous retrouve pour la rétrospective de l'actualité économique de la semaine sur votre radio. Les titres pour commencer. Les prix de biens de première consommation importés sont plus chers au Congo que nulle part ailleurs et la marge bénéficiaire qu'appliquent les importateurs est excessive. 38% de bénéfices réalisés en 2012 contre moins 15% légalement fixés par les lois congolaises. C'est le contenu du rapport publié par le cabinet Mena Finance sur la vérité des prix en RDC. Les exonérations ont longtemps constitué des sources importantes de fuite de recettes publiques et le gouvernement veut stopper cette hémorragie financière. La Troïka stratégique de ce lundi a décidé d'organiser des audits sur toutes les exonérations accordées à certaines entreprises. Le 31 juillet passé, les micro-entrepreneurs qui ne se seraient pas acquittés de l'impôt forfaitaire sur le bénéfice seront soumis à des pénalités selon la Direction générale des impôts. Nicole Ngaka et Daniel Tambizoni vous souhaitent la bienvenue à ce numéro de Panorama économique qui sera commenté par Monsieur Jean-Baptiste Koumassamba. Il est député national et deuxième vice-président de la Commission économie et finances. Nicole, bonjour.
Bonjour Daniel et bonjour à tous les auditeurs.
Honorable Jean-Baptiste, bonjour et bienvenue à Panorama économique.
Panorama économique, le dossier.
Et nous allons tout de suite ouvrir le panorama économique par le rapport MENA Finance. Le poisson, ce char, le poulet et autres produits de consommation coûtent plus cher à Kinshasa, mieux au Congo que nulle part ailleurs.
Et les importateurs appliquent une marge bénéficiaire double que celle reconnue par la loi congolaise. Tenez pour exemple, en 2012, les importateurs exerçant au Congo ont réalisé une marge bénéficiaire de 38% alors que la loi la fixe à moins de 15%. Le résumé de ce rapport est le commentaire du ministre de l'économie et commerce lors de son point de presse mercredi à Kinshasa. Jean-Paul Nemeato.
Toutes choses restant égales par ailleurs, le bien de première nécessité coûte plus cher en République démocratique du Congo que partout ailleurs. Par exemple, en octobre 2012, un panier contenant les marchandises suivantes, 1 kg de haricots, 1 kg de poisson salé, 1 kg de viande, coûte 15 $ au Ghana et en Côte d'Ivoire, 17,6 $ au Congo-Brazzaville et 29,78 $ en RDC. Le prix de la RDC pour le même panier représente, vous vous rendez compte, le double de ce que cela coûte au Ghana et en Côte d'Ivoire.
Ainsi dit Jean-Paul Nemoyato, ministre de l'économie et du commerce. Voilà, nous retrouvons dans ce studio notre invité, l'honorable Jean-Baptiste, deuxième vice-président de la commission ECOFIN. Vous venez de suivre le contenu de ce rapport par la bouche du ministre de l'économie. Les biens de consommation coûtent plus cher en RDC que nulle part ailleurs. Un commentaire?
Oui, le commentaire à chaud, c'est que je salue d'abord le gouvernement de la République qui prend ses responsabilités face à une situation qui est inacceptable par rapport au pouvoir d'achat de la population. Partout au monde, il existe ce que l'on appelle la structure de prix. Et cette structure de prix tient compte des charges réelles supportées par les opérateurs économiques. Tel que les choses se présentent dans le rapport d'audit, il y a une mauvaise foi de la part des opérateurs économiques.
Peut-être parce qu'on les a laissés faire?
Oui, j'y arrive. Le gouvernement a pris cette initiative que je salue, mais on ne doit pas s'arrêter là. Il faut que ça soit suivi d'actes et de sanctions. S'agissant par exemple de la marge bénéficiaire, elle est fixée par les lois, les textes légaux dans notre pays à 15% et que les opérateurs économiques applique 38%. Au regard de tout ça, le gouvernement doit frapper. Je crois que le moment est venu pour que la chose publique soit gérée de manière rationnelle pour permettre au peuple congolais de jouir de services de base. Et si le gouvernement, après cet audit et les audits qui vont suivre, ne prend pas ses responsabilités en termes de sanctions, ben, ces gens-là seront amenés à continuer dans cette pratique-là.
Il est souvent dit que la faiblesse dans les sanctions du gouvernement, c'est que même ceux-là qui sont censés prendre ces décisions, ces sanctions, sont dans le circuit de ces marges excessives aussi, parce qu'ils sont en même temps gouvernants et en même temps opérateurs économiques.
En fait, moi, je crois qu'à un moment donné, on doit se dire trop, c'est trop. Et même ceux-là, nul n'est au-dessus de la loi. Et ça, les Congolais doivent comprendre. Dirigeants et dirigés, personne n'est au-dessus de la loi. Et nous devons cultiver cette culture de respect des non-lois pour que la Respublica soit gérée comme un État moderne. Sinon, nous allons nous arrêter à nous plaindre. Donc, les dirigeants, ils doivent prêcher par
des
exemples. C'est-à-dire, on doit sanctionner tout le monde.
Oui, honorable, mais pourquoi c'est seulement aujourd'hui que, selon vous, hein, que le gouvernement décide de prendre quelques sanctions par rapport à ces opérateurs économiques qui appliquent des marges bénéficiaires un peu trop élevées?
Mieux vaut, madame, mieux vaut tard que jamais. Je crois que le gouvernement actuel a annoncé un certain nombre de réformes en matière de la gestion des institutions, de la gouvernance économique. Et je ne voudrais pas ici qu'on revienne sur le retard que cela a pris. Nous connaissons bien notre pays. C'est que moi je vais dire maintenant, c'est encourager. Ce premier pas, il doit être suivi d'autres. C'est-à-dire, on doit aller jusqu'au bout. Et ça signifie que notre pays, dans cet élan-là, d'améliorer la gouvernance, peut choisir maintenant le chemin nécessaire.
Mais à votre niveau, au niveau de la commission économie et finances, oui, vous êtes plus ou moins partenaire avec le gouvernement. Vous n'avez jamais eu à prendre quelques mesures par rapport à ça?
Oui, c'est vrai que nous devons jouer notre rôle de contrôle. Nous contrôlons et c'est l'exécutif qui a la charge de gérer la chose au quotidien.
Et vous l'avez fait?
J'ai dit qu'il y a des contrôles qui sont faits, mais j'ai dit qu'il reste encore du chemin
beaucoup
à faire. Il reste beaucoup à faire. Parlement, gouvernement, toutes les institutions. J'ai dit qu'il est temps maintenant que l'on se ressaisisse pour dire trop c'est trop. Nous avons besoin d'améliorer la gouvernance économique
à tous les niveaux.
À tous les niveaux.
Le gouvernement décide de mieux contrôler les exonérations. C'est le deuxième dossier de la semaine. Il entend même organiser un audit dans les tout prochains jours sur toutes les exonérations accordées à des entreprises.
Cette décision ressort de la réunion hebdomadaire de la Troïka stratégique autour du Premier ministre lundi dernier. Le ministre des Finances explique pourquoi le gouvernement a pris cette décision. Patrice Kitebi.
Il s'agit très exactement de considérer que les exonérations aujourd'hui se traduisent par une hémorragie importante des recettes et constituent donc une source de coulage de recettes. Et donc le gouvernement a décidé d'assurer un meilleur contrôle de ces exonérations. D'une part, un audit va être fait de toutes les exonérations qui ont été accordées à certaines entreprises. Et d'autre part, on souhaite que désormais, toutes les demandes d'exonération, d'où qu'elles viennent, doivent être mieux suivies, mieux contrôlées par le gouvernement, de manière à pouvoir mettre un terme à cette hémorragie de recettes. Pourtant, nous sommes dans un contexte où le gouvernement a plus que besoin de mobiliser un maximum de recettes pour faire face à la fois aux besoins de financement du développement et aux impératifs de sécurité.
Oui, bien contrôler les exonérations, mais lorsque peut-être on va lever certaines exonérations, peut-être les opérateurs économiques vont encore crier à la tracasserie, honorable.
Non, moi je voudrais indiquer que, d'abord, prendre une décision est une chose, la mettre en exécution et surtout la suivre en est une autre. Je salue cette décision-là, mais je voudrais que le ministre des Finances ainsi que ses différents services aillent jusqu'au bout dans la mise en exécution et dans le suivi.
Et qu'est-ce que vous direz, par exemple, vous, par rapport à la fuite des capitaux suite aux exonérations? Est-ce que c'est vrai ce que le ministre dit?
Oui. Ce que le ministre dit est vrai. Et dans notre pays, notre budget est composé essentiellement à 80% de recettes internes, de ressources internes. Et la quasi-totalité de ces ressources proviennent de recettes de douanes et accises, de douanes et accises, et aussi des impôts et taxes. Mais dans ce secteur-là, on se retrouve devant des situations inacceptables, des exonérations données par une simple lettre. Ça n'existe nulle part au monde. Il faut remettre de l'ordre dans la boutique. Nous ne disons pas qu'on ne doit plus avoir des exonérations, mais on doit les faire dans une certaine rationalité. Qui a droit à quelle exonération et pourquoi? Mais la façon dont les choses se passent, on peut dire qu'il y a plus un pourcentage élevé d'exonération. Et ça fait couler les recettes publiques alors que l'État en a besoin pour financer son programme de développement.
Et nous allons prendre ce troisième et dernier dossier de la semaine qui revient sur la problématique des impôts et taxes en RDC. Les assujettis qui crient à une pléthore d'impôts et taxes, l'administration fiscale qui n'en croit pas et le Parlement qui continue à voter ou aménager de nouvelles taxes. Tout ceci n'a souvent pas été porté à la connaissance du grand public honorable. Voilà qui tombe bien, nous vous recevons, vous qui êtes de la commission économie et finances. Il y a trop de taxes, il y a trop d'impôts à gauche, à droite, la population s'en plaint, les opérateurs économiques s'en plaint. Peut-être que ce sont des taxes et des impôts légaux, mais qui n'ont jamais été vulgarisés, les gens n'en savent rien, et ça pose problème quand on leur demande de les appliquer. Nous vous avons invité parce que nous savons que c'est par vous, par votre commission, que passent toutes ces lois relatives aux impôts et aux taxes. Essayez un peu de nous parler de ce que vous avez pu arrêter au cours de cet exercice.
Oui, je voudrais d'abord souligner que l'impôt, ce n'est pas une invention congolaise. Donc, l'impôt, la fiscalité, constitue une des sources premières de ressources de l'État. Ça, c'est question de le savoir. Deuxième observation, et vous l'avez si bien dit, c'est que dans notre pays, on ne vulgarise pas assez les lois qui sont votées. Par les deux chambres du Parlement. Et puisque la population n'est pas suffisamment informée, ça crée de mauvaises interprétations. Donc l'impôt, c'est une participation citoyenne au développement de son pays. Donc tout citoyen, toute personne physique et les personnes morales, tous nous devons participer, contribuer au fonctionnement de l'État. Parce que nous ne devons pas demander à l'État de construire les hôpitaux, de payer les fonctionnaires, de construire les infrastructures de base, d'assurer les services sociaux de base, sans que l'État ait de moyens. Et la fiscalité constitue une des sources de revenus pour l'État. Ceci dit, au cours de la session de mars qui vient de s'achever, en matière fiscale, le Parlement a ratifié 9 ordonnances. Et ces ordonnances-là ont pour objet d'améliorer la mobilisation des recettes fiscales en RDC. En fait, lorsque le gouvernement a soumis à l'examen du Parlement, de l'Assemblée nationale d'abord, le projet de loi de finances, ce que nous appelons budget pour l'exercice 2013, il l'a fait accompagner d'un certain nombre de mesures devant lui permettre de mobiliser davantage des recettes. Et nous, étant donné que le budget avait été examiné à la fin de la session de septembre 2012, nous n'avons pas eu le temps d'examiner ces différentes mesures. C'est la raison pour laquelle nous avons donné par une loi d'habilitation l'autorisation au gouvernement de légiférer en lieu et place du Parlement sur ces ordonnances. De sorte que, à la session qui vient de se terminer, la session de mars, nous avons eu à examiner ces neuf ordonnances-lois qui ont été prises par le gouvernement.
Peut-être qu'on n'aura pas le temps qu'on n'aura pas le temps de revenir sur toutes les neuf ordonnances.
Oui, je vais prendre deux cas.
Ok.
Parce que vous avez soulevé le cas de l'impôt forfaitaire.
Des 50 000 francs congolais qui a coulé l'arme et salive là.
Non. Moi, je crois que l'administration fiscale, le Parlement, le gouvernement, nous tous, nous avons les devoirs, même vous, les médias, nous avons l'obligation
de vulgariser les
lois qui sont votées par le Parlement.
Ouais.
Alors, qu'en est-il? S'agissant de l'ordonnance loi numéro 13/006 du 23 février 2013, portant régime fiscal applicable aux entreprises de petite taille en matière d'impôts sur les bénéfices et profits. L'ordonnance loi est claire. Elle définit d'abord ce que l'on appelle entreprise de petite taille. Et cette définition se repose ou se fonde sur les chiffres d'affaires. Donc toute entreprise ayant un chiffre d'affaires, c'est-à-dire le total de ventes réalisées, un chiffre d'affaires annuel inférieur à 80 millions de francs congolais, se retrouve dans la catégorie
de petites entreprises.
D'entreprises de petite taille. Mais dans cette catégorie, il y a les petites entreprises et il y a les micro-entreprises. une petite entreprise est celle dont le chiffre d'affaires se situe entre 10 millions et 80 millions. Donc, inférieur à 80 millions, supérieur à 10 millions. Là, elle est considérée comme petite entreprise. Et par rapport à l'ordonnance loi, l'impôt sur les bénéfices et profits pour cette catégorie-là de petites entreprises, c'est 1%
du chiffre d'affaires réalisé
pour les opérations de vente ou 2% sur les opérations de prestation de services.
Oui.
Maintenant, vient la micro-entreprise.
Les remises sont employées.
Donc, la micro-entreprise est celle dont le chiffre d'affaires n'excède pas 10 millions de francs congolais. Il s'agit bien du chiffre d'affaires annuel. Et c'est pour cette catégorie-là que la loi, l'ordonnance précise que la micro-entreprise paye un impôt forfaitaire de 50 000 francs congolais. Donc, il y a d'abord les critères du chiffre d'affaires. Parce que on entend dans la rue, même les mamans qui vendent de bananes et d'arachides, est-ce que ces mamans-là ont un chiffre d'affaires inférieur à 10 millions? Non. Et là aussi, la loi est claire. Il n'y a pas l'exigence d'une comptabilité. Certes, avant, ces entreprises-là payaient la patente. Mais la loi, l'ordonnance est claire. L'innovation, c'est que la patente
ne devient
qu'une autorisation d'exercer. Vous voyez, les entreprises, les grandes, les moyennes...
Donc, cette autorisation que vous avez pour exercer,
oui,
vous payez 50 000 francs sur
les bénéfices réalisés.
Que vous réalisez.
Et c'est normal, j'arrive. Les grandes entreprises, pour exercer, se font immatriculer au registre de commerce. Vous voyez, et c'est ça la loi. Ces micros-là doivent acheter la patente, qui n'est que
une autorisation
d'exercer.
Mais qui a un coût.
Oui, qui a un coût, mais le coût n'est plus celui qui existait avant.
La loi la fixe à combien?
Non, l'ordonnance ne règle pas ce coût, parce qu'il y a les administrations dans chaque province.
Oui.
Donc c'est juste une autorisation. Et la loi, l'ordonnance précise un impôt forfaitaire de 50 000 francs congolais. Quand vous prenez 50 000 francs congolais, c'est annuel. Dans une année, il y a 52 semaines, par exemple. Ça signifie que par semaine, il peut mettre de côté 950 francs congolais. Mais j'arrive. Là où les gens doivent comprendre est que les micro-entreprises n'ont pas l'obligation, donc il n'y a pas l'obligation de vérification comptable. L'administration fiscale se limite simplement à recenser sur base de celles qui ont
reçu l'autorisation
d'exercer. Recenser et aussi évaluer les chiffres d'affaires pour aider au paiement, pour aider ces entreprises, donc les micros, au paiement. Mais cela ne veut pas dire qu'on va prendre les mamans qui vendent des bananes, des arachides et tout ça. Et je voudrais dire quelque chose de si important. Lorsque nous observons l'économie de notre pays, elle est plus dominée par l'informel. Et c'est dans le souci de capter les recettes
qui circulent dans l'informel.
Que cette ordonnance a été prise.
Question
de sensibiliser, de vulgariser. L'administration fiscale participe simplement dans le recensement sur base des autorisations qui ont été données par la patente et doit faciliter aussi dans l'évaluation des chiffres d'affaires de ces micro-entreprises. Voilà ce que dit l'ordonnance.
Honorable, je pense que vous avez été assez clair à ce sujet-là.
Oui.
Et puisque vous avez dit, vous revenez aujourd'hui sur deux ordonnances.
Oui.
La première, c'est celle qui concerne la micro-entreprise.
Oui.
On peut rapidement prendre la deuxième ordonnance aujourd'hui et on passe à autre chose.
Oui, la deuxième ordonnance, je vais mettre un accent
sur les neuf.
Sur les neuf, c'est l'ordonnance qui porte nomenclature des impôts.
Il se pose un sérieux problème là aussi.
Taxes,
voilà,
tout ça,
voilà,
qui sont dues aux provinces et aux ETD. Et là, je vais mettre un accent particulier sur l'un des impôts. L'impôt personnel minimum. C'est un impôt qui doit être recouvré au niveau des entités territoriales décentralisées.
Et qui doit payer cet impôt personnel?
Qui doit payer cet impôt? Tous les citoyens majeurs qui se trouvent dans nos différentes entités. Mais l'ordonnance est aussi claire. Les modalités, la fixation des taux, modalités de recouvrement sont fixées par la loi. Parce qu'en fait, les impôts, les redevances sont d'ordre public. Donc c'est la loi qui les fixe, c'est-à-dire que ça doit être porté à la connaissance de tous les citoyens. Vous aviez raison tout à l'heure. Nous apprenons que certaines provinces ont déjà commencé à collecter cet impôt, alors qu'il n'y a pas d'édit des assemblées provinciales, il n'y a pas de décision des organes délibérants qui en fixent les taux et les modalités de répartition.
Mais peut-être
percevoir l'impôt, c'est bon, mais les gens doivent savoir à quoi ça sert. Et c'est là l'importance de la vulgarisation. Parce que le problème chez nous, le problème du civisme fiscal se pose parce que les gens perçoivent l'impôt, les administrations perçoivent l'impôt, mais il n'y a pas un devoir de redevabilité. Ceux qui perçoivent, les administrations perçoivent l'impôt, ça va au trésor. Le public doit savoir ce qu'on fait de cet argent-là. Et c'est ce qui manque. Je crois que la loi relative aux finances publiques dans notre pays, qui est d'application progressive, institue cela. Donc nous devons arriver à ce système-là. Donc si les gens font le problème, c'est parce qu'ils payent l'impôt, mais ils ne savent pas à quoi...
Les infrastructures routières, par exemple, ne changent pas. Ils ne savent pas écouler leur production.
Alors, donc il faut que les citoyens... Parce que le contrôle, on en parle. Il existe le contrôle politique au niveau du Parlement, mais il y a aussi le contrôle citoyen. Et la culture du contrôle citoyen n'existe pas encore chez nous. Donc nous devons arriver au stade où les citoyens ont le droit de demander les comptes à ceux qui sont là, les dirigeants, à quelque niveau que ce soit.
Honorable, mais est-ce que cela a été spécifié lorsque vous avez eu à prendre cette mesure? Est-ce que vous avez eu à préciser cela dans l'ordonnance?
Cela est précisé, madame, parce qu'il y a d'abord, avant ces différentes ordonnances prises par le gouvernement sur autorisation, Du Parlement, parce qu'il y a eu une loi d'habilitation, nous avons ratifié, mais ces ordonnances-là trouvent comme fondement d'abord la constitution de notre pays, mais surtout la loi relative aux finances publiques, ce que nous appelons la LOFIP. Cette loi-là est claire, la loi indique les droits, les devoirs, surtout la redevabilité dont j'ai parlé. Les dirigeants doivent rendre compte, les dirigés ont le devoir de demander des comptes.
Et l'estimation par rapport à l'impôt personnel,
oui,
c'est estimé à combien?
Non, nous apprenons que certaines provinces demandent 2000 francs
congolais
par an, par contribuable. D'autres, en fait, jusque-là, il faut une décision des organes délibérants. C'est-à-dire l'organe délibérant doit statuer et fixer. Donc on ne doit pas laisser libre cours. C'est pas à l'exécutif de fixer le taux comme il entend. Parce que l'ordonnance dit les modalités de perception, les taux doivent être fixés par des organes délibérants.
Peut-être que ces provinces se sont déjà en avance, peut-être qu'elles se sont déjà réunies et ont pris cette décision par rapport à d'autres.
Oui, si tel est le cas, je ne peux que saluer, mais si tel n'est pas le cas, il faut prendre du recul. Les organes délibérants à tous les niveaux, surtout les assemblées provinciales, doivent accompagner. Nous devons tous accompagner les lois, les ordonnances qui sont votées dans notre pays pour que l'application ne souffre d'aucune faille.
Honorable Jean-Baptiste Koumassamba,
oui.
Voilà, nous vous gardons avec nous le temps de souffler un peu. Nous passons à autre chose.
Merci.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30, heure de Kinshasa, Radio Capi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Les autres infos de la semaine, en bref, lancement lundi à Kinshasa des activités de la société StarTime, un opérateur commercial de télédistribution. StarTime s'utilise comme technologie la télévision numérique terrestre, la TNT, dont le bouquet comprend plus ou moins 200 chaînes de télévision, mais pour l'instant, elle démarre avec 21 chaînes basiques, dont deux congolaises.
Les boutiques, magasins et petits commerces ont repris les activités lundi à Boutembo, cela après un mouvement de grève déclenché jeudi de la semaine dernière. Ils protestaient contre le contrôle par la DGI de l'impôt sur le chiffre d'affaires. Le président de la FEC locale avait affirmé que la DGI et les commerçants ont convenu de suspendre provisoirement ce contrôle à l'initiative du maire de Boutembo.
Les directeurs nationaux et provinciaux de la DGDA ont évalué cette semaine les activités de cette régie financière telle que définie en janvier dernier. Le directeur général de la DGDA souligne qu'il était aussi question de présenter le plan d'action 2013. Objectif, permettre de faire un état des lieux et arrêter les stratégies appropriées pour une gestion axée sur les résultats.
L'aéroport de Bounia en Ituri peut désormais accueillir et laisser décoller les avions, même la nuit. Ceci est rendu possible grâce aux équipements de navigation aérienne installés par la MONUSCO. Le coût total de ces matériels ainsi que des travaux effectués s'élève à 450 000 dollars américains.
Le ministre de l'Agriculture a bouclé mercredi à Mbujimayi une mission dont l'objectif était, selon le chef de la délégation, explorer le terrain en vue de réunir les conditions d'installation du programme signé entre le Royaume de la Belgique et la RDC. Vaste programme qui comprend l'appui au secteur agricole avec les intrants, la réhabilitation de routes de désert agricole et les bacs. Cela pour une valeur estimée à 11 millions d'euros.
Les quincailleries du marché Bakwa Dianga à Mbujimayi sont restées fermées ce mardi. Les marchands des métaux s'insurgeaient contre une convocation du parquet de Mbujimayi, les appelant à payer l'assurance incendie de la SONAS, évaluée à 300 dollars. Ces vendeurs estiment qu'il est inadmissible qu'une assurance soit obligatoire. Ils en appellent à l'intervention des autorités locales.
Merci Nicole. Nous allons retrouver notre invité, le député national Jean-Baptiste Koumassamba, deuxième vice-président de la commission économie et finances, honorable sur cette série de l'actualité de la semaine à travers nos provinces. Quelque chose vous inspire un petit commentaire?
Oui, le commentaire, on en a. Je voudrais d'abord indiquer par rapport à la gestion axée sur les résultats que c'est le mode de gestion de la chose publique qui est recommandé, qui s'impose à tous les pays. C'est ça la gestion moderne. Donc je suis tout à fait content que la DGDA se penche sur cela. Donc l'atteinte des résultats doit être la priorité dans tout le programme d'action des différents services.
Et nous allons terminer par là, honorable. Nous avons survolé quelques sujets assez intéressants aujourd'hui. Nous avons parlé du rapport MENA qui dit que les biens de première consommation en RDC coûtent énormément cher. Et vous êtes revenu sur deux ordonnances, lois qui avaient été ratifiées par l'Assemblée nationale. C'est très important. Une relative aux 50 000 francs congolais d'impôt forfaitaire sur le bénéfice. Également, vous avez parlé d'une autre qui porte impôt sur...
Impôt personnel minimum.
Voilà. En une, deux minutes, un petit commentaire, un petit résumé pour terminer l'émission.
Oui, un petit résumé, c'est que la fiscalité est d'ordre public, où l'impôt s'impose à tout le monde, parce que...
En commençant par vous aussi, hein.
Oui, en commençant par nous tous. Tout le monde doit payer l'impôt, c'est une contribution citoyenne. Mais là-dessus, je voudrais indiquer qu'il y a un problème de civisme fiscal. L'administration fiscale doit avoir, entre autres, comme rôle, la vulgarisation. L'Assemblée nationale, les assemblées provinciales, la presse, le gouvernement, nous devons encore fournir beaucoup d'efforts pour vulgariser. Toutes les lois qui sont votées doivent être portées à la connaissance du public pour que le public soit au courant et que leur exécution ne pose pas des interprétations erronées.
Pensez aussi à une nomenclature puisque ça se pose partout.
Oui.
Les gens, les contribuables ne savent pas à quel impôt, à quelle taxe ils sont assujettis, ils sont soumis.
Oui.
Une nomenclature.
Non, la nomenclature existe. En fait, il y a impôt. L'impôt n'a pas de contrepartie. Ça, c'est obligatoire.
Ouais.
Mais les taxes
ont une contrepartie.
Vous avez besoin d'un service, d'une administration, vous payez une taxe. Et les différentes taxes, donc la nomenclature existe, ces ordonnances la précisent. Nous n'avons pas eu assez de temps pour parler. Je vous ai dit qu'il y a eu 9 ordonnances.
On n'a parlé que de deux.
Oui, il y a aussi d'autres.
Ouais.
Donc, on aura
certainement
le temps,
des occasions.
L'occasion.
Ouais.
Mais j'invite vraiment les collègues députés membres de l'Assemblée nationale, j'invite les assemblées provinciales,
le gouvernement
et puis les exécutifs provinciaux à penser à la vulgarisation. Donc, il ne suffit pas seulement de faire exécuter, mais il faut vulgariser, sensibiliser, que la population soit informée de la quintessence des lois et des ordonnances, surtout en matière fiscale, en ce moment-là, qu'ils soient à mesure de comprendre. Et aussi, j'insiste sur le fait que percevoir l'impôt, c'est bon. Au niveau des ETD, des provinces et consorts, on doit arriver à la logique de rendre compte. Tel secteur, les gens ont versé l'impôt. Mais il faut qu'on voit une école là-bas, réhabilitée, construite par le gouvernement. Donc, il y a l'obligation de rendre compte de la part de gouvernants, mais il y a aussi le devoir de demander les comptes, ce qu'on appelle le contrôle citoyen. Et je crois que la RDC est en train de faire son bon nombre de chemin et on va y arriver.
Merci beaucoup, honorable Jean-Baptiste Koumassamba, député national et deuxième vice-président à la Commission économie et finances de l'Assemblée nationale. Merci énormément d'avoir répondu à notre invitation. Nous pensons que ce n'est pas la dernière fois.
Je vous remercie.
Et surtout, merci aussi à vous, Nicole. On dit au revoir à nos auditeurs.
Oui, au revoir. Et c'était un plaisir de vous accompagner, hein, Daniel.
Au revoir à vos chers auditeurs pour ce moment passé ensemble. Très bonne suite de programmes sur votre radio.